Mark, Evangelho de Mark, chapitre 11, on va voir le premier 21 verset de cet évangile. Mark chapitre 11, verset 1 à 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le. » Et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Verset 4. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus assis dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui procédaient, précédé et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, le disciple vit le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Prions. Seigneur de grâce, nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions, Seigneur, car tu as quitté les lieux célestes, ta gloire pour venir sur terre, puisque nous pouvons voir ta gloire, ta splendeur. Nous te prions, notre Père, aide-nous à voir ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, puisque nous pourrons te voir. Fais tomber les écailles de nos yeux. Ouvre nos cœurs, notre esprit, Seigneur, puisque nous écoutons ensemble ta douce voix en adoration. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Le passage que nous avons lu maintenant se trouve dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. synoptique, ça veut dire voir de la même façon ou de la même manière. Mais nous allons prendre l'évangile de Marc pour étudier ce matin. Ce passage nous raconte les événements de la dernière semaine de vie terrestre de Jésus-Christ, notre Sauveur, juste avant de sa crucifixion. De dimanche à mardi ou mercredi, alentour de la ville de Jérusalem où il était condamné et crucifié. Le texte que nous avons lu contient trois choses. Le verset 1 à 10 nous parle d'entrée du Messie, le roi d'Israël. Le récit que Marc donne de cet événement présente des détails frappants, mais est quelque peu limité dans la proclamation de Jésus en tant que Messie. Ce n'est que plus tard, probablement après la résurrection de Jésus, que ses disciples comprendront pleinement. Pour mieux comprendre, nous devrions nous déplacer dans cette région de Judée. À moins de 2 kilomètres au sud de Jérusalem, se trouvait le village de Bethphagé. Le sens littéral de Bethphagé, c'est maison de figues vertes. Et à environ 3 kilomètres se trouvait Béthanie, maison de dattes ou figues, sur le côté de montagne des oliviers, éminence d'environ 3 kilomètres de long, reconnue pour ses nombreux oliviers. À Béthanie, le dernier arrêt sur la route déserte et peu sûre menant de Jérusalem à Jéricho, se trouvait la maison de Marie, Marthe et Lazare, qui servait généralement de demeure de Jésus lorsqu'il était en Judée. Béthanie était également la demeure de Simon le lépreux. Donc aujourd'hui, nous allons parcourir par ces chemins pour suivre notre Seigneur Jésus. Le mot « Beth », c'est la maison. Bethel, la maison de Dieu. Bethléem, la maison du pain. Donc voilà, on devrait comprendre. Mais donc tous ces lieux sont, pour nous, c'est familier. Nous connaissons toutes ces histoires. Qu'est-ce qui s'est passé dans chaque lieu? Et notre texte nous parle premièrement de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Regardons le premier verset. Lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, ils furent près de Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché d'or près d'une porte. Au contour du chemin, ils détachèrent. Quelqu'un de ceux qui étaient là leur dit, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Ici, nous remarquons que comment le Seigneur il savait comment les choses vont passer. Et comme il a dit, les choses sont passées ainsi. Il n'y a pas un changement. Jésus et ses disciples arrivent à Jérusalem. C'était la semaine de Pâques. Il y avait une énorme foule à Jérusalem pour fêter la Pâque. Jésus commande à ses disciples d'aller chercher un anneau pour son entrée à Jérusalem. Mais on peut demander pourquoi un anneau? C'est pour l'accomplissement de la prophétie, selon Zacharie 9:9. En lisant ce texte, nous comprenons sa souveraineté, son omniscience. Tout obéit devant ce roi souverain. Tout obéit. Même pendant le temps qu'il était un simple homme sur cette terre, toutes obéit à sa voix. Ses disciples font comme il les commande, même s'ils ne comprenaient pas à l'instant même. Le propriétaire de l'anneau laisse prendre l'anneau pour servir le maître. L'anneau obéit également. Maintenant, nous vivons dans une ville où nous ne voyons même pas une ânesse ou un anneau. C'est rare de voir des choses qui sont décrites dans la Bible. Et un anneau, normalement, on ne peut pas monter sur un anneau. Et c'est un animal qui est très têtu, qui est difficile à dompter. Ici, nous voyons que même l'anneau obéit pour servir le Seigneur. Normalement, personne ne peut monter sur un anneau qui n'est pas dressé. Le texte nous dit sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Donc le Seigneur, quand il commande, tout obéit. Et parfois, nous devrions poser la question, c'est avec l'exception de l'homme. C'est sauf l'homme, tout obéit. Toute la nature entière, il obéit à la voix du Seigneur. Nous comprenons par ce récit que Jésus, dans la chair, même quand il était dans la forme d'un serviteur, il est le Dieu souverain. Il contrôle toutes choses. Il sait toutes choses. La foule l'acclame comme roi qui va rétablir le règne de David, de leur père. Ils jettent leurs vêtements par terre pour l'anneau qui porte le Messie peut marcher au-dessus. Ils crient et chantent Hosanna dans le lieu très haut, qui veut dire Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Nous voyons ici que la foule crie Hosanna. Celui qui croit en Jésus comme son sauveur et aussi ceux qui ne croyaient pas. Et dans 3 ou 4 jours plus tard, c'est la même foule va crier, crucifiez-le. Vous voyez comment les choses sont. Le foule qui crie Hosanna, et c'est la même foule, 3 jours après, il va crier, crucifiez-le. Oui, dans la religion chrétienne, la foule est là. Tout type de personnes est dans la foule, ceux qui croient et aussi ceux qui ne croient pas. Tout le monde crie, tout le monde prie, élève les bras et tout le monde frappe les mains et chante. Le Seigneur Jésus, il savait, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui, la seule qui fait la volonté de mon Père, qui est dans le ciel. Matthieu 7, 21. Mais aujourd'hui, dans la religion chrétienne, nous voyons qu'il y a d'énormes églises, les méga, méga églises, remplies du monde, et ils chantent, tous chantent, tous lèvent les mains pour chanter, pour prier. Mais ce n'est pas la foule qui va décider des choses. Le Seigneur sait pourquoi nous le suivons, pour quelle raison nous faisons ces choses. Nous sommes créés pour glorifier Dieu, premièrement. Si notre religion, ce que nous croyons, ne glorifie pas Dieu, notre religion est en vain. Je pense que nous devrions arrêter pour réfléchir. Est-ce que ma religion glorifie Dieu? Tout ce que je fais par rapport à la chose que je crois, est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu dans toutes ces choses? Peut-être vous êtes ici ce matin dans cette église sans même savoir pourquoi vous êtes ici, en train de chanter et prier avec nous. Mais entrer dans une église ne vous amènera pas au ciel. Il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ et l'accepter comme votre sauveur personnel. Si notre prière, c'est notre prière à notre Dieu sauveur à votre égard, Juste parce que nous sommes ici chaque dimanche matin et pour chaque réunion, pour chaque rassemblement, ça ne nous fait pas des chrétiens. Cela dit, maintenant, nous allons continuer à lire et étudier notre texte en Marc 11, le verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Et le verset 11 commence ainsi. Jésus entra dans le temple, la maison de son père. Jésus entra dans le temple. Le grand parvis extérieur de Gentil entourant les parvis intérieurs sacrés du temple lui-même. Aucun païen ne pouvait aller au-delà de ce parvis extérieur. Nous connaissons la construction, comment le temple était construit. Et donc, aucun païen n'était permis d'entrer dans le parvis intérieur. C'est là que le souverain sacrificateur, Caïphe, avait autorisé un marché, probablement une récente innovation économique pour la vente d'articles rituellement purs, nécessaires pour le sacrifice dans le temple, comme le vin, huile, sel, animaux et oiseaux approuvés comme sacrifice. Donc, la raison même de permettre marché, c'était religieux. C'était pour une cause religieuse. Mais est-ce que le Seigneur il a approuvé cela? Le verset dit, Jésus entra dans le temple. Il n'a pas resté longtemps. Jésus entra dans le temple et Dieu est au milieu de nous ce matin, ici. Oui, selon sa promesse, car là où deux ou trois sont rassemblés, assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais imaginons un peu que Jésus entre en son forme physique dans ce lieu où nous sommes réunis ce matin. Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et je le vois moi-même, dit l'Éternel. Il entre dans sa maison. Et qu'est-ce qui va passer? Nous ne faisons pas le culte pour nous satisfaire. J'espère. Selon nos sentiments ou selon nos émotions ou même à ce que nous pouvons s'imaginer de Dieu. Nous venons pour avoir ce que nous plaît ou venons-nous pour plaire à Dieu? Pourquoi nous venons ici? Nous sommes ici pour plaire à nous-mêmes, pour avoir quelque chose pour nous-mêmes ou pour plaire à Dieu. Comment trouvera Dieu sa maison, cette église ce matin? Toute gloire et honneur est-il rendu à Dieu où nous efforçons à plaire aux hommes? Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher à faire? Et est-ce que nous efforçons à plaire, de tout faire pour plaire à Dieu, ou nous faisons les choses pour plaire des hommes? Tout homme sur cette terre a besoin d'une religion. Hein? Mais l'être humain, il a besoin d'une religion ou l'autre. Quoi qu'il soit, croyant ou athée, car l'athée aussi est dans une sorte de religion. Il croit qu'il n'y a pas de Dieu. Il a une religion, sa religion lui. Quand nous sommes tous égarés comme des brebis, chacun a suivi sa propre voie. Si notre religion, notre foi, ne coûte rien, ce n'est pas la religion chrétienne. Si notre religion et notre foi ne coûtent rien, ce n'est pas la religion chrétienne. Nous sommes dans une autre religion. Si nous cherchons un profit mondain en exerçant notre religion, nous devrions nous poser des questions en tant que des chrétiens. Si je viens ici pour que Dieu me bénisse avec les richesses de ce monde, je devrais poser des questions, sérieusement. de ma foi. Le Seigneur a dit, car les ailes de ta maison me dévorent et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et le Seigneur, il pense très sérieusement, mais la conduite des chrétiens. Le texte nous dit, quand il eut tout considéré, le verset 11, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Quand il eut tout considéré, Dieu regarde tout. Il entre dans le temple, il n'était même pas entré dans le parvis intérieur, mais il était dans la parvis extérieur. Il a vu des choses qui se... il a vu ce qu'il a passé dans la parvis extérieur. Et là, il a même pas entré. Il avait même pas envie d'entrer. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. En Samuel 16, 7. Et parfois, on peut chercher une grande église où il y a des choses qui peuvent nous plaire. Il y a une grande salle, il y a un grand orchestre, il y a une équipe qui dirige la musique. Récemment, nous étions dans une église, une grande église. Certainement, il y a plus que 500 personnes pour ce soir. Il y avait la musique et tout. Mais peut-être que ça peut nous impressionner, ces choses comme ça. Mais est-ce que ça impressionne Dieu? Est-ce que Dieu aime ce genre de choses? Dieu, il cherche le cœur de son enfant. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour satisfaire tout le monde et pour rendre heureux tout le monde. Non, il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus regarda avec une profonde tristesse et que les hommes ont fait à sa maison. La maison de son père, la maison de prière de tous les peuples. Nous voyons ici que c'était tard, dont il se détermine dans son cœur de ce qu'il devrait faire pour la journée de lendemain. Ils sont arrivés à Jérusalem, donc il y avait des choses qui sont passées, il y avait la foule qui suivait, et la journée est passée, et maintenant c'était tard. Et à la fin de la journée, il entre dans le temple, et il voit les choses, et les choses qu'il a vues se rendent tristes. Et il s'en alla à Béthanie avec le 12. La foule qui suivait Jésus est déjà partie. Jésus rend avec ses disciples les 12 à Béthanie. Le roi des rois cherche un endroit pour se reposer. Je trouvais ça très ironique. Le Seigneur des Seigneurs, celui qui a créé tout l'univers, il avait faim, il cherchait un endroit pour aller se reposer. Donc il rend avec ses disciples, avec les 12 à Béthanie, pour passer la nuit. Notons que notre texte de Marc 11 nous parle de trois événements. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, premièrement. Deuxièmement, le jugement de Jésus contre le figuier, dans ce texte. Et troisièmement, Jésus purifie l'enceinte du temple. Verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Le lendemain matin, quand il sort de Béthanie, c'est 2 ou 3 kilomètres, il marche. Et certainement, il marchait pas uniquement avec les 12. Et les gens, ils commencent à le suivre. Il y avait une foule encore. Et Jésus eut faim. Aperçoit de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ce passage a été une pierre d'achoppement pour beaucoup. Je pense que certainement vous aussi, vous avez rencontré les gens qui vous ont posé des questions sur ce passage. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions. Et à l'époque, ça m'a perturbé. Comment Dieu peut maudire sa création? Un arbre qui ne portait pas fruit. Bien souvent, il y a des personnes qui regardent l'arbre et pas celui qui est mort, crucifié sur un arbre. On peut poser des questions sur des choses inutiles, parfois, et juste parce que nous n'avons pas compris la parole de Dieu. On peut poser des questions. Quand j'étais étudiant, il y a bien longtemps, je suis toujours étudiant dans la parole de Dieu, mais j'avais beaucoup de questions, je ne peux pas dire que je n'ai pas aujourd'hui, et je doutais ma foi chrétienne, et je posais la question sur l'existence de Dieu. Et un de mes professeurs m'a parlé d'un certain livre, « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?» écrit par un athée, bien évidemment. Et quand il m'a parlé de ce livre, c'est devenu un prétexte pour poser des questions, la même question à des autres amis chrétiens. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce que pour moi, c'était pas logique. C'était pas logique. Pourquoi l'arbre n'a rien fait s'il n'avait pas le fruit? Et pourquoi le Seigneur devrait maudire puisqu'il ne peut jamais porter le fruit? Donc pour moi, c'était un problème. Donc nous devrions voir dans la parole, mais pourquoi Jésus a fait ça? Et donc, si nous allons voir, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, aperçoit loin d'un figuier qui avait de feuilles. Donc il était en chemin, encore vers Jérusalem, et quand il était sur le chemin, il voit loin un figuier. Donc, un figuier, c'est en bassine, c'est un arbre assez grand. Ça peut être, le branche, ça peut aller jusqu'à 10 mètres en largeur. Et l'arbre, il peut être à 10 mètres de hauteur aussi. Et ce qui est marqué, aperçoit loin de figuier qu'il y avait des feuilles. Ce qui est, nous devrions voir avec un peu d'attention. Et donc, quand il a vu l'arbre avec plein de feuilles, le Seigneur, il s'approcha de l'arbre. Il quitte le chemin, il approcha de l'arbre avec l'espérance de trouver des fruits dans l'arbre. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Donc, il y a un problème ici. Soit le Seigneur est trompé, sinon c'est l'arbre qui a un problème. L'arbre, il avait plein de feuilles, parce que les historiens, ils disent, qui connaissent le pays de Palestine, ils disent, le temps de récolte pour les figues, c'est 3 fois. C'est mars, avril et un peu plus tard aussi. Il y a 3 fois. Et apparemment, le fruit, le figue verte, il s'apparaissent premièrement. Avant que le feuille, il peut apparaître sur l'arbre. Donc le Seigneur, il savait que ce n'était pas encore la saison de figues. Mais ce qui se passe, il voit un arbre avec plein de feuilles, mais pas de fruits. Même pas le fruit vert qu'on devrait trouver normalement. Et qu'est-ce que ça montre ici? Premièrement, cette illustration, cet événement, ça nous parle des nations d'Israël qui étaient plongées dans la religion et le feuille, mais sans fruit. Une religion qui ne porte pas le fruit, c'est une fausse religion, n'est-ce pas? Donc le Seigneur, il parle premièrement de la nation d'Israël qui semblaient avoir plein de choses dans leur religion. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, le temple, le business dans le temple se fleurissait, ça bougeait beaucoup, et certainement, pendant la période de Pâques, il y avait beaucoup de foules qui venaient à Jérusalem pour faire le rituel, les sacrifices, tout était prêt, mais sans fruits. À l'intérieur, il n'y avait pas de cèpe, il n'y avait pas de l'essence pour porter le fruit. Donc, l'essentiel était absent. Et qu'est-ce qu'elle dit? Psaume 1, verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qu'il donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et le... normalement, un arbre, il devrait porter sa fruit dans la saison. Donc, cet arbre, il n'avait pas le fruit, mais il était rempli de feuilles. Il était rempli de feuilles. Donc, la nation d'Israël, quel était l'état de la nation d'Israël? Et on peut poser la même question sur nous-mêmes aujourd'hui, en tant que chrétiens. Est-ce que nous sommes tout vert, tout beau, avec beaucoup de feuilles et sans le fruit? Est-ce que nous sommes des chrétiens qui portent le fruit? Le Seigneur, il a dit très clairement que nous devrions porter le fruit. Nous devrions être rattachés à lui. Sinon, il a dit que je vais couper cet arbre et jeter dans le feu. Ça, c'est la condamnation. Mais un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est simplement sauvé pour rester immobile. Il devrait porter le fruit. Regardons Jean 15. Jean 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il retranche. Et tout serment qui porte de fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Ça rejoint un peu notre sujet de adoration ce matin. Si nous cherchons à glorifier Dieu, la meilleure manière, c'est de porter du fruit pour lui. Et la raison de notre être dans ce monde, c'est de demeurer en lui et porter du fruit. Il n'y a pas d'autre raison. Et pourquoi le Seigneur, il a maudit ce figuier? Et si nous voyons le figuier en nous, l'image de ce figuier, et parfois on peut avoir beaucoup de semblants. On peut apparaître comme des bons chrétiens, comme un bon disciple, comme un enfant de Dieu. Mais peut-être nous ne portons pas le fruit. Est-ce que nous avons perdu cette capacité de porter le fruit? Les feuilles de figue sont assez grands. Elles sont assez grands. C'est pourquoi, quand on voit dans le premier chapitre de Genèse, le troisième chapitre de Genèse, dès que l'homme, il a péché, et quand ils ont compris qu'ils étaient nus, ils ont pris les feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Et les feuilles peuvent couvrir nos nudités. Même aujourd'hui, on peut essayer de couvrir nos nudités, notre vraie personne, avec des feuilles, avec des choses de la religion. On peut venir à l'église. On peut venir à l'église. On peut chanter le cantique. On peut faire beaucoup de choses. On peut même faire l'évangélisation. On peut même prêcher. On peut chanter merveilleusement. Mais est-ce que ça suffit que pour dire que nous vivons pour le Seigneur? Et quand on pense que l'aboutissement d'un arbre, c'est porter du fruit. Son but, c'est pour porter du fruit. Et dans le fruit, il y a le noyau. Le noyau, ça aide à multiplier cette espèce. Et ainsi, nous devrions porter le fruit si nous devrions multiplier, propager la parole de Dieu dans ce monde. Et donc, aujourd'hui, on peut dire ces choses sur l'Église aussi. Si nous ne portons pas le fruit, nous serons jugés par le Seigneur. Si nous ne portons pas le fruit, nous serons jugés par le Seigneur, même en tant qu'Église. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et le texte nous dit que Jésus, il a eu faim. Et imaginons le Seigneur des Seigneurs. Quand il a marché sur cette terre, il a eu faim, il a eu soif. Et le figue, c'était un fruit qui était très, très commun. Et c'est un fruit vital dans la culture de Palestine. Il avait une grande valeur. Et le figuier est connu pour son abri et c'était un signe de prospérité et la paix. Nous voyons 1 Roi 4:25 et Michée 4:4. Et sous le figuier, Jésus a vu Nathanaël pour la première fois. Et même le bon figue est comparé avec de bons croyant, et le mauvais figue était utilisé pour signifier les méchants en Jérémie 24. Et le figue, déjà dans l'Ancien Testament, il était utilisé comme signe de jugement. Nous trouvons en Isaïe, Jérémie et Osée. Et le figue aussi, c'est le symbole. Il était utilisé pour symboliser la nation d'Israël. Et après cela, le Seigneur, il arrive à le verset 15, le verset 14 déjà. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et le Seigneur, il a parlé fort, puisque les disciples, ils peuvent entendre ce leçon. Ce que c'est être un arbre de ne pas porter le fruit. Et le verset 15, il arrive vers à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le principal sacrificateur et le scribe l'ayant entendu, cherchèrent le moyen de le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'à la racine. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier, tu as maudit, a séché. » On peut voir dans les différents évangiles, il y a plus de détails parfois. Chacun il a donné un récit un peu différemment, mais la matière c'est la même chose. Donc ici, le Seigneur il entre dans le temple. La veille, il a entré dans le parvis extérieur, il a vu ce que c'était, la marchandise, le commerce qui était dans le temple, organisé. Et donc le Seigneur, il revient le matin. Donc on peut imaginer que le Seigneur, toute la nuit, c'est le travailler. Que ce qu'ils ont fait de mon temple. Donc, il revient à Jérusalem le matin. Et qu'est-ce qu'il fait? Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa la table de changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et donc, ça aussi, ce passage aussi, c'est un sujet que les gens ils posent souvent la question. Pourquoi Jésus se mit en colère? Je pense que nous avons tous rencontré des personnes comme ça. Pourquoi Jésus s'est mis en colère? Le zèle de ta maison me consommait. Et Jésus, il a vu ce qu'ils ont fait de sa maison, la maison de son père. Et c'est la colère, l'indignation divine. Ce n'est pas la colère pour frapper un autre. Ce n'est pas pour un colère qui peut faire mal aux autres. C'est simplement l'indignation divine pour purifier le zèle pour garder le temple de Dieu. Est-ce que nous avons cette zèle pour garder le temple de Dieu? Est-ce que nous avons cette zèle pour garder la sanctité de son Église? Est-ce que nous avons cette zèle pour garder le temple de Dieu qui est notre cœur? Est-ce que nous avons ces zèles qui brûlent dans notre cœur, nuit et jour? Est-ce que nous laissons tout et n'importe quoi entrer dans le temple de Dieu? Et le Seigneur, il chassa toutes choses qui ne devraient pas être là. Et le parvis extérieur, c'est le parvis extérieur où le païen, les étrangers, ils peuvent entrer dans le temple pour adorer Dieu. Et cette partie était prise par les religieux et ils s'organisaient le commerce pour profiter au nom de Dieu. Pour profiter au nom de Dieu. Donc, Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc ce matin, nous devrions sérieusement poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait le temple de Dieu? Premièrement, notre cœur. Et notre maison, notre foyer et notre église. Qu'est-ce que nous avons fait, le temple de Dieu? Les principaux sacrificateurs de scribes ayant entendu chercher le moyen de le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Mais la foule était frappée par la doctrine, par ce qu'il enseignait. Ils ne peuvent rien faire. Donc, c'est pourquoi le principal sacrificateur, il ne pouvait rien faire. Le scribe et le principal sacrificateur ne peuvent rien faire. Le verset 19, « Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. » Donc, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Marc, il décrit ainsi, mais quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, il dit que l'arbre s'est séché jusqu'aux racines. Et si nous devrions porter le fruit pour le Seigneur, nous devrions le faire. On ne peut pas nous abstenir de nos devoirs, de notre devoir de porter du fruit. Sinon, on peut sécher jusqu'aux racines. Le Seigneur, il donne à ce qu'il il a peu, mais il peut enlever ce que, si on n'a pas, il peut enlever tout ce qu'on a, il peut même enlever. Ça peut sécher jusqu'aux racines. Et ce n'est pas la première fois que le Seigneur, il purifie le temple, il chasse des commerçants de temple, c'est la deuxième fois. La première fois, nous trouvons dans le deuxième chapitre de Jean, il a déjà fait une fois, c'est la deuxième fois, le Seigneur, il fait, juste avant d'aller mourir sur la croix. Ce qu'il tient saint, le temple de Dieu est tellement saint, et le Seigneur, il tient que le temple de Dieu est saint. Nous devrions garder saint. Et ce matin, nous devrions poser la question, qu'est-ce que nous faisons du temple de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à porter du fruit pour lui. Amen.